Du 6 au 8 octobre 2011, en partenariat avec Divergence FM, le festival Sonorité vous invite pour la 7e édition à aiguiser votre curiosité du texte au son. Performances, lectures, concerts, radio, expos, projections, conférences, des formes multiples et inattendues proposées par des artistes et performeurs venus des quatre coins du monde sur différents lieux de la ville. Jeudi 6 à l'École des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération, vendredi 7 à La Chapelle, samedi 8 chez Aperto, au Centre chorégraphique national de Montpellier et au couvent des Dominicains, le festival Sonorité interroge et stimule vos sens pour bien les garder en éveil. Tous les détails sur sonorité.org, sonorité au pluriel bien sûr. Un bon plan, Divergence FM.
Sonorité.
Et c'est Carole Rieusec et Edna Chaton qui sont avec nous. Vous deviez être quatre, vous n'êtes plus que deux. Est-ce à dire qu'il y a eu une sélection, des primaires pour savoir qui allait venir à Divergence aujourd'hui?
Exactement.
Voilà, Didier Achour a perdu, du coup il n'a pas été sélectionné.
Ce sont deux femmes qui représentent le festival.
Voilà, et puis le troisième millénaire sera féminin ou ne sera pas, disait le poète. Alors voilà, une fois de plus, c'est prouvé. Alors on est là pour parler de cette édition numéro 7 de Sonorité qui démarre le 6, qui se poursuit le 7 et se termine le 8. Ici à Montpellier, on a entendu les lieux à l'instant, on les rappellera bien entendu. On note tout de suite que cette année, on renforce un petit peu nos liens de partenaires puisque différents rendez-vous seront retransmis sur les ondes. Il s'agira notamment de la performance d'Emeric Eno à 19h ce jeudi et puis du concert des Dédalus qui seront retransmis en direct ce jeudi 6 et puis Arte Radio avec Sylvain Gire samedi à 14h30 et ça fera l'objet d'une émission spéciale avec Divergence, Radio Pays d'Hérault et Sylvain Gire pour parler justement de l'avenir de la radio vu qu'on célèbre les 30 ans de la bande FM à force d'émissions sur toutes les fréquences à peu près. Ça tombe tout à fait à pic. 7e édition de Sonorité, un festival qui propose des formes d'approche pas aussi mainstream, voire même parfois un petit peu difficile. Mais nous, on aime bien Divergence, les choses qui sont un petit peu exigeantes avec le public. On travaille beaucoup avec Rude Awakening aussi, qui sont sur des formes parfois assez atypiques. Malgré tout, malgré ces propositions, le festival s'installe, se pérennise et a trouvé son public.
Tout à fait. Tout à fait, le festival se pose, s'élance et oui, il a trouvé ses publics. Parce qu'on n'a pas les mêmes publics en fait, en fonction des lieux dans lesquels on propose des objets. Mmh. Et c'est vrai qu'on propose aussi des objets différents en fonction des lieux qui nous accueillent, ça c'est important. Cette année, oui.
Des lieux que, alors le CCN, vous l'occupiez depuis à peu près le démarrage.
C'est une occupation, oui.
Voilà. Et là, les lieux, vous les avez choisis ou c'était aussi fonction des disponibilités et des contraintes?
Moi, j'aurais envie de dire qu'il y a un vrai partenariat avec l'École des Beaux-Arts de Montpellier depuis déjà maintenant quelques années. Et donc là, c'est un choix vraiment, un désir hein, de la part des Beaux-Arts de travailler avec nous et un désir de notre part d'une transversalité, puisque les plasticiens et le son, c'est déjà une histoire une vieille histoire.
Oui, d'être transversal entre des formes et des disciplines qui le sont pas souvent, finalement, dans les propositions qu'on voit partout.
Mais oui, je pense que c'est une des singularités du festival, c'est effectivement de croiser des réseaux. Et ça, on l'a tout de suite fait naturellement, en sympathie entre le texte et le son. Et du coup, ça crée des formes hybrides et transversales et les publics de ces deux champs se croisent. Et là, effectivement, on hybride encore la chose avec la relation aux arts plastiques.
Mmh. Et là, cette année, on a un deuxième lieu qui est d'habitude consacré aux arts plastiques, c'est la galerie Aperto, qui est une galerie associative. Et donc là, il va y avoir une performance, justement, Carole Rieusec et Ina Chaton. Donc c'est la première fois qu'on travaille avec eux. Donc c'est encore pour ouvrir les champs.
Alors c'est vrai qu'en ce moment on est en pleine effervescence au niveau de ce qu'on appelle les Media Labs, les Hack Labs, les Trucs Labs, etc. Où justement à travers les nouvelles technologies, à travers les formes d'expression classiques entre guillemets, musique, poésie, écriture, cinéma, chant, il y a beaucoup de croisements justement au niveau européen ou mondial à travers ces formes qui commencent à avoir le soutien des autorités. On voit la Gaîté Lyrique à Paris, c'est assez récent d'installation, mais partout en Europe, il y a beaucoup de lieux comme ça, dans des friches industrielles ou etc., qui sont montés et qui sont très friands de tous ces croisements. Est-ce que ça explique le fait que dès le départ, Sonorité avait un réseau international en quelque sorte ?
Oui, je pense que de par les acteurs du festival, on a croisé nos réseaux qui effectivement sont pas du tout nationaux ni locaux. Et de ce fait, on a tout de suite été aller chercher des artistes qu'on rencontrait sur notre route, qui sont des artistes qui sont effectivement des artistes internationaux. Ça, c'est un point de départ en fait. C'est pas. Et sinon, pour revenir à cette question de transversalité, effectivement, je pense que ça fait longtemps que ça existe déjà dans nos pratiques, mais le temps que la politique rattrape les choses ou se mette à la vitesse d'eux, effectivement, maintenant, ça devient plus à la mode, on va dire, de défendre la transversalité, alors qu'il y a... Il y a 15-20 ans, c'était plus complexe. Mais là, c'est effectivement de partout, on voit des entrecroisements, des entrelacements de champs artistiques.
Alors ça démarre ce jeudi 6 octobre donc à l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération avec notamment une exposition des partitions, alors c'est noté dessin de Cornelius Cardew.
Oui, alors donc cette partition, nous sommes en train de l'accrocher. C'est pour ça que Didier n'est pas là actuellement.
Ah ouais.
Je l'ai quitté. Nous sommes en train de proposer en fait une ligne visuelle et du coup sonore. Donc c'est la partition qui va être accrochée sur l'espace de la galerie et qui va même déborder de la galerie pour aller s'étendre sur les murs de l'École des Beaux-Arts. Donc ce sont des copies du dessin de cette partition qui est accrochée et l'exposition va durer le temps en fait de
la durée de vie des photocopies.
Voilà, de la durée de vie de la photocopie.
D'accord, une exposition périssable.
Périssable, oui.
C'est une partition qui est magnifique,
ouais, c'est
qui est purement avec un graphisme ultra minimal. Est très très belle, et la question de la ligne est centrale aussi au niveau du son, parce qu'il y a une ligne qui traverse toute la partition, et en fait une des grandes questions d'interprétation, c'est est-ce qu'on interprète ou pas cette ligne, et à partir de là, c'est vrai que si on l'interprète ou ça l'interprète pas, ça génère des musicalités très différentes.
Et puis toujours ce jeudi 6 octobre, il y aura la performance de Aymeric Henault. Avant de le présenter plus avant, je vous propose d'en écouter un petit extrait.
Thank you.
Alors c'est assez sidéral comme truc, c'est Emrikano. Lui, il vient de France.
Oui, il est français, Emrikano. Ouais. On pourrait croire qu'il est belge.
Pourquoi ?
Je sais pas.
À cause de peut-être de son nom de famille ? Non, je ne sais pas. Ça a pas l'air super belge non plus. Donc c'est quelqu'un qui utilise, on va dire, tout ce qu'il peut pour générer du son. Quelqu'un qui est aussi un petit peu issu du beatboxing.
Tout à fait.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais encore.
Écoute, très franchement, comme le festival est constitué de différents artistes et chacun propose des personnalités, et je ne connais pas tant que ça la personnalité d'Emrikano, donc je vais la découvrir avec le public.
Eh bien voilà qui est franchement dit. Donc ce sera retransmis donc sur nos ondes ce spectacle de 30 minutes, cette performance. Et puis toujours ce jeudi 6 octobre à l'école des Beaux-Arts, eh bien il y aura les Impromptus. Les Impromptus,
oui.
Ce sont des Impromptus, comme leur nom l'indique.
Je peux aussi me lancer dans une palissade, non. Les Impromptus, mais ça sera la troisième année,
une
collaboration avec le Festival Actoral Marseille.
Voilà.
Et donc au début, les Impromptus étaient en fait un objet qui vivait à Actoral, avec une commande vidéo qui était passée à un artiste par le FRAC PACA, voilà. Et il y avait un auteur qui s'emparait de cette vidéo et qui en faisait une traduction en fait textuelle. Et puis on a proposé, nous aussi, de proposer des musiciens. Et du coup, il y a une alternance entre des auteurs qui traduisent la vidéo et puis des musiciens qui la traduisent aussi. Donc on a un jeu comme ça de passage du texte au son. Et là, cette année, ce qui est caractéristique, c'est que la vidéo est d'un seul jet. Et que du coup, on a une grande vidéo de 30 minutes et que les musiciens, il n'y aura que deux musiciens cette année et pas d'auteurs, vont se passer le relais, en fait. Et du coup, on n'aura qu'une vision des Impromptus et non pas X duplications comme on a eu les années précédentes.
Oui, parce que les années précédentes, on revisionnait le film, donc du coup, 6 à 8 fois. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu trop. Là, la proposition, je la trouve intéressante.
Moi
pour
aussi.
Ça,
mm-hmm.
Cette idée de relais.
Voilà, alors, il y aura pas mal de musiciens qui accompagneront cet impromptu. Il y aura donc Alfredo Costa Monteiro, il y aura Christine Abdelnour, et je vous propose d'écouter un petit extrait de Alfredo Costa Monteiro, extrait de Rumeur pour accordéon solo. Des sons étranges qui sortent de l'accordéon d'Alfredo Costa Monteiro, un des performeurs qui seront donc ce jeudi pour ses impromptus, ce jeudi 6 à l'École supérieure des Beaux-Arts. Et puis il y aura aussi la musicienne Christine Abdelnour qui vient du Liban et dont on peut écouter un petit extrait de R, extrait de Bouche sombre au-dedans de moi-même, et c'est une saxophoniste. Voilà, Christine Abdelanour, il va y arriver le garçon. Ce sera donc une autre des musiciennes qui accompagneront ces impromptus. Et puis un petit peu plus tard, toujours ce jeudi à l'École des Beaux-Arts, ce sera le concert de Treatise de Cornelius Cardew avec l'ensemble Dédalus. Donc dans le sens, on réfléchissait là juste hors micro sur le titre. To treat, c'est un verbe dont le nom treaty est issu, qui est un traité comme un traité économique, etc. Même si le verbe to treat veut dire traiter, mais aussi peut vouloir dire récompenser, etc. Trick or treat, disent les petits enfants à Halloween. Donc là, c'est l'ensemble des Dédalus, on le présente.
Tout à fait. Alors l'ensemble des Dédalus, c'est un ensemble qui est dirigé par Didier Achour, qui est membre du collectif Sonorité, et qui joue essentiellement un répertoire de musique minimale américaine. Et voilà, avec des formations variables, même s'il y a un chœur de musiciens qui font partie et qui constituent l'ensemble des Dédalus. Alors là, pour le traitisme, moi j'ai été invitée à participer à cette expérience, qui est une superbe expérience en fait. Il s'agit d'une partition très très forte au niveau graphique et qui pose des vraies questions d'interprétation aux musiciens, parce qu'il s'agit de se mettre d'accord vraiment sur chaque signe. Et donc les signes sont des signes assez basiques comme un rond, une ligne, un triangle, etc. Et du coup, on peut avancer que si on est vraiment d'accord sur ces figures. Et beaucoup de choses se passent dans la discussion, en amont bien sûr, et puis sur place aussi. Et on est obligé de savoir exactement ce que l'autre fait, comment il interprète ce carré, ce rond, etc. Se donner des signes pour interpréter ces figures. Et c'est une utopie pratiquement de le réaliser.
Et là, quel a été le point de départ en fait pour vous, là, par rapport à cette interprétation?
Alors, en fait, on a découvert la partition et puis on a commencé à discuter, chacun posant des questions particulières. Moi, j'étais très obsédée par la ligne médiane, c'est pour ça que j'en parle, parce que, étant donné que j'ai un instrument électroacoustique, c'est le genre d'objet qui ne me fait pas peur, parce que je peux faire durer un son indéfiniment, alors qu'eux sont effectivement avec des instruments acoustiques et n'ont pas la possibilité de pouvoir faire durer cette ligne. Mais pour moi, tout était centré autour de ça. C'est-à-dire qu'il y avait soit la possibilité d'en faire une figure spatiale, et on aurait pu se positionner ou positionner le public par rapport à ça, soit là, elle dure comme une ligne harmonique, en fait, continue tout le long de la partition. Et la partition fait 193 pages,
quoi. Ouais, presque 200 pages. Ouais.
Et on en interprétera 19. Mmh. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est une durée qu'on s'est un peu concerté, même s'il y a quelques notes quand même de Cornelius Cardew qui donne des indications, parce qu'il y a des chiffres. Il donne quelques indications, on s'en intéresse ou pas, mais en tout cas, il y a un petit traité. Et voilà, ce qu'il y a de très beau dans Treaty, c'est qu'il y a eu plein d'interprétations et qui donnent des musiques très différentes. Il n'y a pas une interprétation qui se ressemble. Il y a une très grande liberté qui est donnée aux musiciens. Il y a même une forme d'improvisation. Et on glisse vers cette improvisation, parce qu'on avait déjà donné ce traitise aux instants chavirés à Paris. Et là, on était un peu strict sur la géométrie et on s'est rendu compte qu'il fallait donner beaucoup plus de souplesse et aller vers plus de fluidité et d'improvisation entre nous. Et du coup, s'il y a 14 ronds, par exemple, on ne va pas faire forcément 14 ronds, mais on va plutôt se donner un feeling du rond et puis on le quitte et hop, on arrive sur l'unité.
Alors, qu'est-ce que Treatise ? Eh bien, on a une réponse qui dure 65 secondes.
Eh bien, c'est un vertébré. Ah. Bien sûr, un vertébré. Et oui, Treatise en soi, ce n'est pas grand-chose. C'est une partition graphique muette, car elle ne fait pas sens. Il n'existe aucun code pour la déchiffrer. Pourtant, du point de vue de son graphisme, on peut déjà la considérer comme un vertébré, car il y a une ligne horizontale qui traverse toute la partition en son milieu. Un peu comme une colonne vertébrale. Cette ligne représente, si vous voulez, le musicien qui décide d'interpréter Treatise. Elle est alors surtout invertébrée par le type d'interprétation qu'elle réclame. Ce qui donne l'articulation à son ossature, ce sont les gestes et les usages qu'inventent les interprètes sur fond de non-sens. Ils en constituent les vertèbres qui permettent à la partition de se mettre en mouvement. et un mouvement libre, car c'est leur musique que les interprètes produisent à la lecture de la partition. Treatise, c'est un petit traité d'émancipation musicale, car elle révèle et induit un processus poétique et tend à problématiser son contexte d'énonciation.
Voilà, c'est Mathieu Saladin, auquel on reviendra pour ce qui concerne la journée du samedi, qui nous faisait cette petite précision et cette petite présentation anatomique, pourrait-on dire. Le vendredi 7 octobre, ce vendredi, ça démarrera à 19h à La Chapelle, rue Joachim Dubellay, à Montpellier, quartier Figuerolles, avec justement, on en parlait... avec justement la performance de Charles Penquin, auteur français, Charles Penquin, qui il est déjà venu dans Sonorité ou pas du tout?
Il était venu, oui, quand on avait fait une avant-première édition à Vendeuvre-les-Nancy. Donc c'était la 8e si on la compte, l'édition 0. Et là, il avait joué avec le guitariste... bref, j'ai oublié.
Avec un guitariste.
Avec un guitariste, non, mais du coup, le duo a continué. Mais il n'était jamais venu pendant le festival.
D'accord.
Moi, je vais dire que quand on fait la programmation, en fait, évidemment, on donne carte blanche aux artistes. On ne leur demande pas quelque chose en particulier. Mm-hmm. Ils viennent et ils font strictement ce qu'ils veulent. Ce qui génère parfois des surprises, notamment pour les régisseurs. Et ça va être le cas, je pense, de Charles Penquin, qui va nous faire une grande envolée dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'il y aura quand même une vidéo qui va articuler sa performance et qu'elle sera une performance plutôt d'une heure, ce qui est plutôt rare pour un poète, puisqu'ils ont plutôt une durée entre 20 et 30 minutes. Et voilà, peut-être un grand show.
Voilà, en tout cas, on peut s'en donner un petit échantillon avec cet enregistrement réalisé le dimanche 10 avril 2011 au Voût vers 22h.
C'est mort. C'est mort ici. C'est quasi mort. On n'en a plus pour longtemps. Ailleurs, c'était moins mort. Mais ici, si vous voulez sortir le soir, c'est mort. Faut rester chez soi. Mais même chez soi, c'est mort. La télé est morte. Vous sortez dans la télé. Vous voulez passer une bonne soirée, mais c'est la télé qui veut passer une bonne soirée. Du coup, elle dit c'est mort ici. Elle passe ses soirées ailleurs. On sait pas où. Certains savent où elle passe ses soirées, la télé. Pas chez moi, en tout cas. Chez moi, c'est mort pour la télé. Du coup, je la regarde. Je vois des gens sortir. Ils disent qu'ils sortent, mais c'est pour faire un effort, pour dire d'être ressorti. Mais après, ils re-rentrent. Il y en a comme ça qui sont morts de faire tant d'aller et venu pour rien. Les experts vous le diront. Ne sortez pas couvert, surtout si c'est mort tout partout. Pas d'aller et venu inutile. Restez chez vous, même si c'est mort. Ils le disent tous, les experts, à la télé. Un jour, nous finirons poussière, comme il est dit. Mais poussière d'étoiles, poussière de galaxies, truc au loin, truc de gaz, de mélange, truc suffocant, liquides infects, d'exhalaisons, ammoniaque et tout ça, tous les trucs ragoûtants de la nature. Parce que la nature, au fond d'elle, c'est ragoûtant, tout ça qui nous ragoûte chaque jour et qu'on veut oublier et qu'on oublie en vivant. C'est en vivant qu'on oublie le mieux. C'est en vivant qu'on finit par mieux se soumettre à l'absence. Sinon, c'est trop présent d'une seconde à l'autre. Sa présence, ses gaz, son rayonnement, tous les trucs infects et les trous de nous mêmes en nous, les trous noirs de je et moi en nous, pour ne pas dire le point de nos rencontres, le point de non-vue, le point à la mesure, l'arête pas dorsale, l'arête, le mouvement, le point d'accroche, d'annulation de tout, la rentrée définitive, le concert définitif qu'on porte tous sous les bras, tout ce qu'on est à vouloir oublier que la nature, au fond d'elle, c'est ça, un immense trou noir, avec sa force centrifuge, truc ébullitionnant à perte, à vie, à demeure, truc à foutoir permanent qui infecte l'espace entier, l'univers entier, et nous dedans, nous dans l'univers entier, nous dans une marmite, nous petits marmitons, nous qui marmottons marmonneurs jusqu'à teuteurs, nous marmottant dans la marmite à nous poser mille et une devinettes, à nous marner du ciboulot, nous à nous poser mille et une devinettes avec le moteur à marmotter et à mitonner, nous moutonnant, moltonner, nous militants de la pensée, la petite pente à être, la pensée petite bulle, nous qui montons comme des bulles dans la tête, nous qui bullons dans la marmite, nous qui marmitons à vouloir être comme des bulles à papoter, nous papotant, petite pente popote à la tête, petite pente à être et à demeurer, nous qui pensons demeurer dans la pensée et que ça le ferait. Et comme qui dirait, ça pourrait influer, faire pencher le cours des astres et philosopher sur les quasars. Et comment dire-je face aux quasars et la naine blanche et les neutrons en pagaille, les galaxies d'emmerdement. Comment dire-je sans emmerder le monde.
Et les neutrinos, et les neutrinos, mais nous ne parlons pas assez des neutrinos. Charles Penkin, dans sa performance, quelqu'un qui écrit depuis qu'il est né et qui manifestement n'a pas beaucoup de difficultés à apprendre ses textes. Donc voilà, quelqu'un de très énergique.
Ça c'est sûr. Mais le trio qui va le suivre ont aussi une énergie assez incroyable.
Alors, il y aura aussi ce vendredi la cellule d'intervention Metamkin qui viendra, formée de Christophe Auger, Xavier Querel et Jérôme Nöttinger, des performances avec des projections.
Alors, c'est un trio pratiquement historique parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils improvisent ensemble sur les scènes de France et du monde entier, on peut le dire. Et donc, c'est un trio grenoblois. Et ils travaillent de façon très, très particulière, c'est-à-dire qu'ils font du cinéma expérimental. Ils développent eux-mêmes leurs films. Et là, ils génèrent des images en direct, qui transforment aussi en direct avec des traitements chimiques, etc. Et Jérôme Nöttinger, qui est un agitateur bien connu des milieux musicaux expérimentaux, lui œuvre avec généralement un dispositif électroacoustique, mais c'est vraiment le virtuose du magnétophone à bande. Jérôme,
d'accord.
Voilà, et on pourra d'ailleurs l'entendre samedi avec justement juste cet instrument en soliste. Je pense que ça sera une très belle chose parce que ça fait longtemps qu'ils jouent, que ça fait longtemps qu'ils ont envie de venir au Festival Sonorité et que pour l'instant, on n'a pas présenté des objets de ce type-là avec des images qui se créent, qui se transforment et avec un musicien qui joue aussi avec un matériau comme celui-ci.
Alors donc la cellule d'intervention Metamkin, c'est du cinéma pour les oreilles et de la musique pour les yeux, peut-on lire dans le dossier de presse, une bonne formule qui résume assez bien la chose. On va écouter un extrait de Jérôme Nöttinger, on dit Nöttinger ?
Nöttinger, tranquillement.
L'instant du flashball. Oui, votre poste marche tout à fait bien. C'est juste que vous êtes sur Divergence FM et que Jérôme Nöttinger vous propose ses petites performances. L'homme qui se sert d'une caméra ou d'un magnétophone comme d'un instrument de musique. Ce sera donc toujours à La Chapelle ce vendredi dans le cadre du festival Sonorité. La Chapelle où on pourra aussi voir le travail de Cyril Lecournay.
Oui, alors Cyril Lecournay, je pense connu des Montpelliérains, non ? En tout cas, l'association Les Murs d'Aurel, peut-être, et Brigitte Chaland aussi, peut-être. Il est vidéaste, et là, c'est un travail qu'il a fait avec des patients de cette association qui viennent découvrir en fait des pratiques artistiques, et donc en travaillant avec des artistes, différents artistes, ils font un parcours tout à fait singulier. Et c'est une vidéo qui parle d'un de ses parcours et qui sera présentée par Cyril Lecournay le soir même.
Voilà, toujours donc à la chapelle. Et puis à la chapelle, ce sera aussi eh bien la performance de Jean-Christophe Camps, qui devait être avec nous, mais qui ne sera pas avec nous.
Alors oui, Jean-Christophe.
Un des piliers de sonorité.
Oui, tout à fait, oui. Alors Jean-Christophe Camps, il va certainement. On attend de lui qu'il nous fasse.
Est-ce que c'est pas une surprise ?
Voilà, c'est une surprise.
Ouais, c'est plus une surprise.
On ne peut rien dévoiler. C'est une vraie surprise.
Alors ne dévoilons rien, contentons-nous d'écouter le concept d'arrosage selon Francis.
Quand je fais la sieste, je... Je rêve de... C'est du rêve érotique en général. Enfin, très sexe plutôt qu'érotique, heureusement. Érotique, j'aime pas le mot, je sais pas comment. Mais je rêve érotique. Et donc, le rêve, c'est... Je suis chez une copine avec qui j'ai bu auparavant l'apéro. Et je me retrouve chez elle. Cette copine a cette manie de s'inquiéter pour ses plantes, de vouloir toujours arroser les plantes. Et donc moi, je lui pose la question. Du coup, là, je pose la question, mais... alors, je sais plus. C'était pourquoi tu arroses ces plantes. C'est pas exactement ça qu'elle me dit en fait, mais il y a ça. Je vais le retrouver. Il faut que je me mette en situation de rêve. Pourquoi tu arroses ces. Ces plantes. Après, on renvoie les plantes à Monte. Ça me revenait à la manière. Donc je lui dis pourquoi tu arroses ces plantes non.
Mais pourquoi tu arroses ces plantes, quoi ? Mais pourquoi ? C'est Christophe Carole, musicien. Compositeur, improvisateur, performeur, bonimenteur du labyrinthe sonore à entrées multiples que constitue le duo Christophe Carole. Donc là, c'est acousmatique, c'est improvisation électroacoustique qui prennent comme axe d'écriture l'espace, l'objet, la parole, des préoccupations musicales. Et puis des dispositifs aussi électroacoustiques, parfois un petit peu bizarres. La diffusion sonore hors salle et hors concert, le mur parlant, les archipels de haut-parleurs. C'est une espèce de laboratoire à lui tout seul, ce duo.
C'est une industrie, oui.
Oh, une industrie, non mais... Oui, c'est vrai
une
qu'il faut quand même...
expérimentale.
Voilà, ces expérimentations quand même qui sont régulièrement diffusées à l'étranger, Radio-Canada, Radio France, etc. Donc, oui, ça, c'est le côté industrie, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Donc ce sera donc toujours à la chapelle pour une performance surprise donc ce vendredi 7 octobre. On va passer au samedi qui lui non.
On oublie une
non d'un petit
on
bonhomme.
Oublie une jeune femme
quand même.
Ah oui.
Valérie Mrejean.
Pour une lecture. Voilà, une lecture d'un texte d'elle-même ou
oui,
d'un texte...
Alors Valérie Mrejean, on va dire que sa singularité, c'est qu'elle a eu une formation de plasticienne et qu'ensuite, elle s'est plutôt dirigée vers l'écriture et qu'actuellement, elle poursuit à la fois et l'écriture et un travail sur l'image puisqu'elle réalise des photographies, des films documentaires qui sont très intéressants. Donc là, elle est invitée pour une lecture.
Voilà, elle est issue d'une école d'art, donc En fait, voilà, c'est encore
une traversée,
une transversalité. Et donc, elle fera cette lecture. Alors, le déroulé de la soirée du vendredi 7, on vous l'a fait dans un ordre qui ne correspondra peut-être pas à ce qui se passera effectivement, parce que vous l'aurez compris, il y a aussi une dose de surprise et d'improvisation dans tout ça. En tout cas, ça démarre à 19h ce vendredi, c'est à la chapelle. N'oubliez pas. Et puis samedi, donc, ça sera de 12h à 13h que ça démarrera le samedi à la galerie Aperto par une performance de figures sonores et nus féminins. Et Ena Chaton, plasticienne, qui est là avec nous, et Carole Riosek, qui est là avec nous aussi, eh bien, sont tout indiqués pour nous en parler.
Tu commences ?
Vas-y, Ena.
Donc, c'est un projet qui vient d'un désir d'une collaboration. C'est notre première collaboration ensemble. Donc, depuis maintenant quelques années, je réalise des performances avec des corps, des participants. Donc, les corps ont la singularité d'être nus. Dans l'espace, ils font des gestes simples. Ils parcourent l'espace. Ils utilisent des objets, ils posent aussi, puisqu'il s'agit de poses photographiques. Et voilà, j'avais envie de paquer du son dans tout ça.
Alors en fait, moi j'ai l'impression que je travaille à un espèce de contre-champ de la photographie. C'est-à-dire que je fabrique du temps pendant que Ena fabrique de l'instant photographique. Et du coup, les corps rencontrent des textures, des paysages sonores, des voix. Je crée des figures sonores au sens de figures spatiales. Et ces corps sont pris dans cet espace sonore-là. Et ça les décontextualise en quelque sorte. Mmh. Et en même temps, ça les place dans une temporalité.
Oui, dans un réel aussi, voilà. Qui n'a pas forcément...
Voilà. Du coup, il y a un frottement vraiment entre la photographie et puis le temps sonore et musical. Donc, il y a une rêverie, en fait,
une étrangeté aussi.
Voilà.
Hein.
Voilà, ça sera ce samedi de 12h à 13h à Galerie Aperto, qui se trouve en centre-ville, 1 rue Étienne Carder à Montpellier. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, et peut-être qu'il y en a.
Je voudrais juste ajouter que l'espace n'est pas très très grand, donc je vous conseille vivement de réserver.
Voilà, on peut réserver en disant bonjour@sonorité.org, sonorité au pluriel, ou au 06 78 22 13 69. Il le redit, 06 78 22 13 69. Toujours ce samedi, eh bien, ça se déplacera ensuite à partir de 14h30 au Centre chorégraphique national de Montpellier, donc de Croussillon, aux Ursulines, avec bien quelqu'un qui s'inscrit dans la régularité maintenant, c'est Sylvain Gire d'Arte Radio, qui viendra faire sa désormais traditionnelle séance d'écoute radiophonique.
Alors là, il y a de l'exagération. Sylvain Gire n'est venu qu'une seule fois, donc ce sera la deuxième fois. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé sa performance, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime l'oralité et qui aime s'adresser au public qu'il ne rencontre que trop rarement, puisqu'il travaille pour la web radio. Et donc voilà, il vient pour la deuxième fois. Par contre, effectivement, Arte Radio est partenaire du festival depuis pratiquement le début. C'est-à-dire qu'il y a toujours un journaliste d'Arte Radio qui vient, qui crée des portraits, des musiciens, etc. Et après, ils sont diffusés sur Arte Radio. Et là, je pense que Sylvain va donc faire écouter des créations radiophoniques, les présenter et aller à la rencontre de son public qu'il aime.
Voilà, alors c'est des séances d'écoute qui se font un petit peu dans la pénombre, si je me souviens bien, non
Non, pas particulièrement, je crois que c'est pas vraiment quelqu'un de la pénombre, Sylvain Gire. Par contre, il faut être détendu, etc. Donc il y a un dispositif qui n'est pas le gradin sec, mais oui, non, c'est pas le noir.
Voilà, donc ce sera donc de 14h30 à 15h30 environ, donc aux Ursulines. Et puis, on vous le disait tout à l'heure, suite à cela, un petit peu après la fin de cette écoute radiophonique aux alentours de 15h45-16h, eh bien, on sera ici dans les studios avec Sylvain Gire et puis un membre de Radio Pays d'Hérault pour justement aborder ces questions Arte Radio, la création radiophonique, dans quelles conditions, avec quel financement, etc. Puisque on le rappelle, Arte Radio a eu la bonne idée de produire ses productions, oui, c'est pas très élégant, sous licence Creative Commons, donc en libre diffusion. Donc ça pose plein de questions et on fera donc cette émission ensuite. Mais aux Ursulines, il y aura aussi la diffusion sonore de Anne-James Chaton, qui n'est pas l'ex-mari de Héna, mais qui est son cousin. Anne-James qui a initié aussi et puis pas mal porté l'organisation du festival à ses débuts.
Oui, tout à fait, oui. Il fait partie du... Oui.
Et encore aujourd'hui. Hein.
Encore aujourd'hui.
Et encore aujourd'hui.
Oui.
La pièce qui sera installée au centre chorégraphique est, je crois, une pièce qui a été réalisée au Japon suite à une résidence japonaise de plusieurs mois.
Et puis, il y aura aussi une conférence de André Markowitz, qui est traducteur.
Qui est traducteur, voilà. Traducteur d'œuvres de grands classiques, en fait, notamment des Russes. Dostoïevski, Gogol, enfin bref, toute une pléiade d'auteurs. Et là, ce qui est intéressant, on ne connaît pas sa performance, ça fait longtemps qu'on veut l'inviter. Et là, il nous a demandé d'inscrire comme titre générique de sa performance, traduction improvisée.
D'accord.
Donc voilà, Céleste Rêveur, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire et on imagine que ça sera merveilleux.
Alors c'est assez étonnant qu'un traducteur pratique, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les traducteurs, souvent des gens qui sont fermés dans leur bureau et qui sont payés au signe et tout ça. Et...
Apparemment, c'est une vedette de la traduction et il aime venir faire des choses en direct.
Donc ce sera dans la foulée, donc aux alentours j'imagine de 16h, et puis il y aura aussi Christophe Fiat qui fera une performance qui n'a rien à voir avec l'automobile.
Tout à fait.
C'était trop facile, je sais. Christophe Fiat, on peut en dire un mot ?
Alors, je pense que c'est bien de le présenter comme étant un acolyte de Anne-James Chaton. Mm-hmm. En tout cas, ils sont tous les deux de Besançon, de la même génération. Ils ont ensemble fondé la revue Tija.
Justine, oui.
Voilà. Et bon, après, ils se sont éloignés, comme il arrive. Mais je crois qu'ils restent quand même dans cette veine un peu de la poésie rock. Et voilà, je crois que ces deux représentants de la poésie un peu rock, c'est bien Anne-James Chaton et Christophe Volkswagen.
Ah, c'est son vrai nom. Donc Christophe Fiat qui s'intéresse aux icônes de la culture de masse, et en termes de culture de masse, on avait trois extraits, on a choisi Les aventures extraordinaires de Tracy Lord.
En 1984, Los Angeles est la capitale mondiale du film X, et les actrices capables de faire hurler de plaisir les pornophiles du monde entier touchent des cachets mirobolants à Los Angeles, qui est la capitale mondiale du film X. Le premier film de Tracy Lords a pour titre « Qu'est-ce qui me met en chaleur parce que le monde est rond ?» Le premier film de Tracy Lords qui a pour titre « Qu'est-ce qui me met en chaleur ?» est un succès pour Tracy Lords parce que le monde est rond. Le premier film de Tracy Lords qui a pour titre « Qu'est-ce qui me met en chaleur ?» est un succès pour Tracy Lords parce que Tracy Lords a un charisme fou dans son premier film qui a pour titre « Qu'est-ce qui me met en chaleur ?» parce que le monde est rond. Les producteurs du premier film de Tracy Lords, qui a pour titre « Qu'est-ce qui me met en chaleur ?», proposent tout de suite à Tracy Lords trois nouveaux contrats en or parce que le monde est rond. Comme les producteurs du premier film de Tracy Lords, qui a pour titre « Qu'est-ce qui me met en chaleur ?», proposent tout de suite à Tracy Lords trois nouveaux contrats en or. Tracy Lords, qui a tourné dans le film qui a pour titre « Qu'est-ce qui me met en chaleur ?», devient très vite la star porno la mieux payée du monde parce que le monde est rond.
Parce que le monde est rond comme une pièce d'un euro, Christophe Fiat, pour cette performance Les aventures extraordinaires de Tracy Lords, donc qui sera au Centre chorégraphique national bien ce samedi pour cette performance. Et puis avant que cette soirée ne se referme au couvent des Dominicains avec le concert de Michel Pizarro, eh bien on passera en revue les revues, j'ai envie de dire, les revues et corrigées.
Alors en fait, non, c'est pas, on va pas passer en revue les revues. On va plutôt demander aux revues d'actualiser leur contenu. Voilà. Et donc il y aura deux revues invitées. Revue Corrigée, donc, qui est une revue qui existe depuis 1983. Qui est dont le siège est à Grenoble. Jérôme Nottinger, un des agitateurs de cette revue. Et Jean-Christophe Camps et moi-même, on fait aussi partie du comité de rédaction. Donc c'est une revue qu'on connaît bien. Et donc cette fois-ci, on a pensé à inviter Mathieu Saladin, qui fait à Paris actuellement un cycle de conférences très intéressantes sur l'expérimentation. Et après discussion, on a pensé qu'il était intéressant aussi qu'il y ait non pas qu'une conférence, mais plutôt un parallèle en fait, entre une des partitions de John Cage, que Mathieu l'interprète avec des textes et Jérôme avec son super magnétophone à roulettes. Mmh. Donc du coup, on va avoir une espèce de parallèle créatif entre une traduction sonore de cette partition et une traduction textuelle. C'est-à-dire que Mathieu, lui, va prendre plein de textes qui ont trait à la radio et il va en faire un collage comme ça par rapport à la proposition Cajun et Jérôme va faire au contraire, lui, un cheminement sonore. Donc ça va être une des deux performances à radio, les revues en acte. Et la deuxième revue qu'on a invitée, c'est la revue de Vincent Menu et
Garance d'Or,
voilà, et qui s'appelle Véhicule, parce qu'il faut véhiculer véhicules. Et donc c'est une revue qui propose à un certain nombre d'artistes de venir traduire des partitions graphiques. Et donc, d'une façon générale, Véhicule s'actualise. C'est pas une revue qui est essentiellement textuelle, comme les revues corrigées, mais c'est plutôt une revue performative. Donc, notamment avec Boris Charmat, qui fait partie un peu des gens, mais il y a aussi Frédéric Dumont, Emmanuel Adélie, qui sont des fidèles de cette revue. Ça nous intéressait d'inviter Vincent, parce que c'est le graphiste de du festival depuis le début. C'est un graphisme fort et on adore. Et je pense que Vincent n'est pas tellement habitué à venir lui-même sur le plateau. C'est ça qui est drôle. Et par contre, lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de faire... Enfin, je ne veux pas dire tout, mais voilà. Il va faire quelque chose avec la revue Véhicule. Et je pense que ça sera assez simple et assez drôle aussi.
Voilà, ça sera pour ce qui se passera au CCN. Et puis pour clôturer cette édition numéro 7 du Festival Sonorité, c'est au couvent des Dominicains que tout le monde se déplacera, 8 rue Fabre à Montpellier, pour le concert de Michael Pizarro, un compositeur américain, né en 61, mais c'est une information somme toute assez anecdotique. Compositeur et guitariste.
Oh, tout à fait. Un compositeur de ce courant de la musique minimale. Et il y aura deux objets, en fait. Une partition qui va être interprétée par différents musiciens. Patrice Soletti, mais Didier Achour, Thierry Madio, Yannick Guédon.
Ils sont nombreux.
Katie Porter ou... Non.
Tona Schoenbeck.
Est-ce qu'ils ont tous le même instrument ?
Non, je suis vraiment désolée, il me manque deux noms ou trois noms. Enfin, c'est une pièce d'ensemble.
Ils ne nous en voudront pas.
Ils ne nous en voudront pas, j'espère. Et puis ensuite, il y aura un solo de Michael Pizarro. Voilà.
Voilà. Donc, je crois qu'on a vraiment été assez exhaustif. Si vous qui nous écoutez, vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas tout vu, eh bien allez donc faire un tour sur sonorité.org, sonorité au pluriel. Là, vous retrouverez tout le détail de ce qu'il faut savoir. On en retrouve aussi des infos et le dossier de presse sur le site de Divergence. Enfin, c'est pas vraiment dur. Sachez en tout cas que ça démarre ce jeudi à 19h à l'École des Beaux-Arts. Et vous n'aurez qu'à suivre la farandole jusqu'à samedi pour ne rien rater. On vous remercie d'être venu passer ces quelques 50 minutes avec nous. Et puis, on précise tout de même que la billetterie, c'est sur place, que c'est de 6 à 12 euros pour les journées, soirées, etc. Sauf au Beaux-Arts, où ce sera entrée libre.
Ainsi qu'à la galerie Apertaux.
Voilà, donc voilà, tout est dit.
À bientôt.
Carole, Ena, merci beaucoup. On vous souhaite un excellent festival et on se quitte donc avec Michael Pizarro.